Voilà, bonjour. Alors effectivement, nous arrivons, enfin, dans le contexte de Marc l'expérience, hein, qui est aussi une expérience de communiquer l'évangile avec ceux qui nous entourent, et je crois que c'est aussi pour cela que cet évangile a été écrit. On arrive aujourd'hui à la sixième section. C'est pas facile de prêcher dessus. On arrive dans ce qui est le lieu saint du message de Dieu aux hommes. On va prendre cette sixième section, 14 à 16, sans le dernier paragraphe qui est dans vos Bibles, qui ne faisait pas partie de l'évangile de Marc au début. Et c'est pas seulement pour ça que je le prends pas aujourd'hui, c'est parce que c'est le texte que nous aborderons lors du week-end dimanche prochain au culte, avec Paul-Robert Chanson. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on prenne un peu le temps d'entrer dans ce texte. J'ai pas choisi un passage particulier pour un commentaire. J'aimerais présenter un petit peu de manière générale l'évangile de Marc, comment il se situe et comment ce texte en est l'apogée. Faire un petit peu ensemble un parcours chronologique, hein, sans Bible. C'est pour ça que j'ai préparé une petite présentation qui nous permettra de suivre la chronologie des événements ensemble. Puis ensuite, je vous propose qu'on relise un peu le texte, mais pas en continu, en essayant de se placer successivement du point de vue, en gros, hein, des pharisiens et compagnie, puis des disciples et compagnie, puis de Jésus. Et puis terminer par quelques brèves réflexions sur le sens que ça a pour nous. Alors, l'évangile de Marc, hein, de manière quasi certaine, c'est le plus ancien des évangiles. Il a été écrit sans doute quelques années avant la destruction du temple, et c'est intéressant parce que Jésus parle beaucoup de la fin du temple, mais ce texte a été écrit environ une génération après Jésus, après la mort de Jésus, mais avant qu'arrive cette destruction du temple. Il est sans doute écrit par Marc, qui a été un compagnon de mission, et ça c'est aussi intéressant par rapport à tout le sens missionnaire de l'Évangile, qui a été un compagnon de Pierre et de Paul. Et dans ce sens-là, il était en lien avec les deux grands courants de la première Église, qui étaient les églises qui étaient autour de Pierre, qui étaient des églises formé essentiellement de juifs, et puis celle autour de Paul qui avait beaucoup plus des gens du monde païen, hein, pour le dire en gros. On est dans une situation où l'évangile est en train de se répandre partout dans l'Empire romain, se confronter à d'autres cultures, mais ça reste un mouvement juif. Et pour souligner ce que nous a dit Santoche dimanche dernier, on est en pleine continuité avec le message de Dieu dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, mais on ne devrait pas l'appeler Ancien Testament parce que il n'est pas révoqué, il est étendu à tous. C'est un texte qui rassemble certainement des souvenirs, des traditions et probablement même des textes écrits qui ont circulé dans les églises jusque-là et qui a pour but de vraiment ancrer l'évangile qui est en train de se répandre dans ce qu'a été la vie de Jésus. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas de récit de la nativité dans cet évangile. C'est une des différences. Les récits de la nativité ont été ajoutés après. Et ils sont d'ailleurs assez différents chez Luc et chez Matthieu, même si on a l'habitude de les mélanger quand on fête Noël. Et puis dans Jean, c'est reformulé de manière toute différente. Mais le récit de la Passion, qui est vraiment au cœur des quatre évangiles, c'est ce qui est le plus ressemblant aussi. Bien sûr, il y a des différences de point de vue, mais c'est vraiment le cœur du message qui est là, commun à ces quatre évangiles. Alors, Marc commence avec le commencement, dit-il, le commencement de l'évangile. Dans ce mot commencement, il y a plusieurs choses. C'est un début, mais c'est aussi un modèle. C'est même le modèle, cet évangile, c'est le modèle de ce qu'est la mission de transmettre l'évangile. Commencement de l'évangile, cette bonne nouvelle de Jésus, Et tout l'évangile va tourner autour de qui est ce Jésus. Jésus-Christ, c'est le Messie que tous les Juifs attendaient et attendent, Fils de Dieu. Et ça, ça va être la réponse que l'évangile s'efforce de donner. Et ça commence par l'histoire de Jésus rencontrant Jean-Baptiste qui prêche le pardon des péchés. Jésus se fait baptiser et reçoit cette parole du ciel, « Tu es mon fils bien-aimé ». Mais tout au long de l'évangile, cette réponse à la question « Qui est Jésus ?» reste et appelée à rester secrète. Et puis au beau milieu de l'évangile, qu'on a divisé, hein, pour ceux qui apprennent le texte, hein, en 6 sections, donc il y a 3 sections puis 3 sections. Au beau milieu, à la fin de la 3e section, qu'est-ce qui se passe? La confession de Pierre, qui dit « Tu es le Christ ». Et qu'est-ce qui suit juste après cette confession de Pierre, au début du chapitre 4, immédiatement? Quelqu'un se souvient? Juste après la confession de Pierre, Jésus annonce sa mort et sa résurrection. Et sans doute parce que pour les disciples, ce n'était pas du tout évident, c'était même complètement contraire à leur idée que Jésus, le Christ, le Messie, veuille dire « il va mourir sur la croix ». Donc, l'évangile est comme un commentaire de toute cette question le reste de l'évangile est comme un commentaire de ces chapitres 14 à 16. Voilà. Et un point intéressant qu'on ne peut pas développer, mais je le dis quand même parce que j'ai trouvé dans un livre que j'ai lu pour préparer, c'est que quand on regarde comment est construit géographiquement le texte de Marc, on s'aperçoit qu'il reprend toute l'histoire du salut du peuple juif pour montrer que c'est le salut aujourd'hui. Donc on est en pleine continuité avec le message de Dieu déjà révélé dans l'Ancien Testament. Alors je vous propose maintenant un petit parcours chronologique. Si tu arrives à mettre mon ordinateur, appuyer sur la touche F5, il devrait apparaître quelque chose. Voilà. Alors, sans les Bibles, par quoi ça commence le chapitre 14? Est-ce que vous vous souvenez? La section 6. Par? Non, pas encore à la Sainte Seine. Ok. Attends. Voilà. Ah. J'étais juste trop loin, j'en ai fait 2. Voilà, un complot contre Jésus, hein, ce sont les Juifs qui complotent contre Jésus. On est au début, juste avant la fête de la Pâque, là encore la fête la plus importante pour les Juifs, donc en plein contexte juif. Puis l'onction à Béthanie, c'est cette histoire que nous a racontée, en partie lu Michel tout à l'heure, cette femme qui apporte un vase pour oindre Jésus de parfum. Et juste après, quelqu'un se souvient? Sans regarder dans les Bibles. Voilà, Judas prépare la trahison. Voilà, et après? Après, il prépare le repas pascal. Voilà, préparatif du repas pascal. Qu'est-ce qui se passe après? Pardon? Ouh, pas encore. Pas encore. Alors, après la préparation du repas pascal, il y a le repas lui-même. Et qu'est-ce qu'il y a pendant le repas? Pardon? Oui, mais avant la Sainte-Seine. Voilà, Jésus annonce quelqu'un. Jésus annonce la trahison. OK? Alors après, il y a effectivement la Sainte Cène. Et après la Sainte Cène, oui, mais ils vont chanter, c'est juste, mais ils vont font quelque chose. Il y a quelque chose avant, je nous ai dit. L'annonce du reniement de Pierre. Voilà. Et après, non, parce que qui va trahir ses dons, c'est avant la Sainte Cène. Là, il annonce la trahison de Pierre. Et après, alors vous avez parlé de jardin, c'est maintenant qu'on est au jardin de Gethsémané, où Jésus prie avec ses disciples. Vous vous souvenez d'ailleurs qu'ils ont de la peine à rester éveillés. Je dois dire, je les comprends très bien. Et après, l'arrestation. Okay. Et, voilà. Et après l'arrestation, voilà, Jésus est devant le grand prêtre. Bien. Ensuite, que se passe-t-il ? Le reniement de Pierre. Alors, on est déjà un petit peu dans le matin, puisque c'est les moments où le coq chante. Bon, je sais qu'au Laos, il chante déjà au milieu de la nuit. Là, je ne sais pas si en Palestine, c'est aussi le cas. Mais voilà. Pierre renie Jésus. Et après, le lendemain matin, Jésus est devant Pilate. Et ensuite, là, j'ai fait des sections, elles sont, je crois, un petit peu plus divisées que dans Marc l'expérience, mais ça n'est pas grave. Après Pilate, il n'est pas parlé d'Hérode, non, il y a le couronnement d'épines. Il y a le couronnement d'épines. Puis, bon, après, voilà, après il y a la crucifixion. La mort de Jésus. L'ensevelissement. Le samedi. Rien. Le Shabbat. Et dimanche matin, les femmes au tombeau. Voilà, je vais laisser ça. Okay. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu le parcours, on va essayer de relire quelques textes un petit peu. D'abord, les pharisiens, hein, ces chefs religieux qui étaient en opposition avec Jésus depuis pas mal de temps dans les textes. Alors la Pâque et la fête des pains sans levain devaient avoir lieu 2 jours après. Les grands prêtres et les scribes cherchaient comment arrêter Jésus par ruse. Pour le tuer. Il se disait en effet, pas en pleine fête, de peur qu'il y ait des troubles dans le peuple. Parce qu'évidemment, le peuple, hein, une fois ils sont avec, une fois ils sont, hein, les populations, c'est pas très fiable. Vous vous souvenez que le dimanche d'avant, ils étaient en train d'acclamer Jésus, donc voilà. Et puis, un peu plus tard, voilà que les prêtres reçoivent un certain Judas qui leur propose de leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Et puis, on arrive finalement le soir, enfin, il fait vraiment nuit déjà. Au même instant survint Judas, l'un des 12, avec une troupe armée d'épées et de bâtons, qui venait de la part des grands prêtres, des scribes et des anciens. Celui qu'ils livraient avait convenu avec eux d'un signal, celui à qui je donnerai un baiser, avait-il dit, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. Sitôt arrivé, il s'avance et lui dit, Rabbi, maître, et lui donne un baiser. Les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Un peu plus tard, ils emmènent Jésus chez le grand prêtre. Ils s'assemblent tous, les grands prêtres, les anciens et les scribes. Toute la clique. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort et ils n'en trouvaient pas. Car beaucoup portaient de faux témoignages contre lui, mais les témoignages ne concordaient pas. Les témoins se contredisent. Il y en a même qui se lèvent pour donner un faux témoignage en disant « Nous l'avons entendu dire qu'il va détruire le temple. Voilà, » bon. Et puis finalement, le grand prêtre interroge Jésus, qui ne répond toujours rien. Il l'interroge encore et lui pose une question. « Es-tu le Messie, le Fils de Dieu ?» Vous connaissez la réponse de Jésus, peut-être. Le grand prêtre alors déchire ses habits et il dit « Qu'avons-nous besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous ? » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui couvrir le visage, à lui donner des coups et à lui dire « Fais le prophète !» Et les serviteurs le reçurent avec des gifles. Et puis, dès le matin, les grands prêtres tinrent conseil avec les anciens, les scribes et le Sanhédrin tout entier. Ils lièrent Jésus, l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interroge. Il lui demande « Es-tu le roi des Juifs ?» Les grands prêtres portaient contre lui beaucoup d'accusations et Pilate l'interrogeait de nouveau. « Tu ne réponds rien, tu vois toutes les accusations qu'il porte contre toi ?» Toujours au silence. Pilate était étonné. Alors il tente un coup. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il réclamait. Donc, il essaye de faire relâcher Jésus, car il voyait bien que les grands prêtres l'avaient livré par jalousie. Et les grands prêtres excitèrent la foule pour qu'il leur relâche plutôt Barabbas. Prenant la parole, Pilate leur disait « Que ferai-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» D'ailleurs, il les piège un peu parce que c'est eux qui prétendent que Jésus est le roi des Juifs, d'après Pilate. Voilà. De nouveau, il crie « Crucifie-le !» Pilate leur dit « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Ils crièrent de plus en plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et livra Jésus, après l'avoir fait flageller, pour qu'il soit crucifié. Et je ne vais pas tout lire après, vous savez que les soldats le conduisent à l'intérieur du prétoire, ils lui dressent une couronne d'épines, ils le frappent, ils se moquent de lui, il y a toute une mise en scène, voilà, des soldats, puis qui le font ensuite sortir pour le crucifier. Et à la crucifixion, quelque part, c'est Jésus, mais il est passif. On le crucifie, on partage ses vêtements. Jésus était crucifié à 9h du matin. L'inscription portant le motif de sa condamnation, c'est « Le roi des Juifs ». Les passants l'insultent en disant « Hé, toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même en descendant de la croix. » Et de même, les grands prêtres avec les scribes se moquaient entre eux. « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Le Messie, le roi d'Israël, qu'il descende maintenant de la croix pour que nous voyions et que nous croyions. » Voilà ce qu'ont vu, ce qu'ont vécu les grands prêtres, les scribes, les pharisiens, Pilate, qui ne croyait pas un mot de la culpabilité de Jésus, mais voilà, on ne peut pas faire autrement que de suivre. Alors prenons maintenant un peu les disciples. J'ai envie de commencer par une femme. Parce que les disciples, ce n'est pas seulement les 12, il y a aussi beaucoup de femmes qui suivaient Jésus et qui l'écoutaient. Et parmi elles, cette femme qui vint avec un flacon d'albâtre contenant un parfum de nard pur, très coûteux, et qui brise le flacon pour lui verser le parfum sur la tête. Et puis juste après, un autre disciple, Judas Iscariote, l'un des 12, qui va chez les grands prêtres, puis ensuite, il cherche le bon moment pour leur livrer Jésus. Et puis ensuite, c'est le premier jour des pains sans levain, hein, s'approche de la fête, où l'on immolait la Pâque, ses disciples lui dirent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque ?» Et voilà que Jésus les envoie. Les disciples partent et vont à la ville, et ils trouvent tout, comme Jésus avait dit, prépare le repas, prépare la Pâque. Puis alors, pendant le repas, quand Jésus leur annonce que un d'eux va les livrer, ils ne savent vraiment pas que penser. Pris de tristesse, ils se mirent à lui dire l'un après l'autre, serait-ce moi ? Et puis après, il y a l'Eucharistie, la Sainte Cène. Et après, comme on a dit, il y a l'annonce du reniement de Pierre. Et alors Pierre, le disciple toujours très entreprenant, très sûr de lui, c'est un peu le chef du groupe. Et Pierre dit à Jésus, même si tous tombent, eh bien, pas moi. Alors Jésus lui répète ce qui va se passer, mais lui affirmait de plus belle, même s'il faut que je meure avec toi, non, je ne te renierai pas. Quelle belle assurance. Et tous en disaient autant. Ils partent pour le jardin de Gethsémané, et voilà qu'il y a Pierre, Jacques et Jean qui suivent Jésus. Commence à ressentir de la frayeur, mais voilà. Ben, qu'est-ce qui se passe ? Quand Jésus revient, il les trouve endormis. Et Jésus dit à Pierre, tu dors ? Une deuxième fois, Jésus vint et les trouve en train de dormir, car leurs yeux étaient appesantis et ils ne savaient que lui dire. Je disais que je les comprends parce que moi, ça m'arrive même quand j'ai un truc difficile à faire et même quand il faut préparer une prédication, que j'ai des envies de dormir qui sont parfois aussi une fuite. Mais ça, à part ça, ça fait du bien de dormir. Voilà. Mais puis après, c'est probablement un disciple qui, lors de l'arrestation, tire l'épée, mais ça n'est pas dit dans Marc, pour frapper le serviteur du grand prêtre et lui emporter l'oreille. Puis il y a aussi une histoire. Est-ce que c'est un disciple de Jésus ? On n'en sait rien. Un jeune homme qui suivait, puis qui n'avait qu'un drap sur le corps, on l'arrête, mais lui, lâchant le drap, s'enfuit tout nu. Pas trop qui c'est. Puis après, Pierre, de loin, avait suivi Jésus jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Il était assis avec les serviteurs et se chauffait près du feu. Alors le matin, pendant qu'il était en bas dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arrive et voyant Pierre qui se chauffe, elle le regarde et lui dit « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus ». Mais il nia en disant, « Je sais pas, je comprends pas ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors dans le vestibule. La servante le vit et se remit à dire à tous ceux qui étaient là, « Celui-là, il est un des leurs. » Mais de nouveau, il niait. peu après, ceux qui étaient là disaient une fois de plus à Pierre, « À coup sûr, tu es un déleur. Et puis, tu es galiléen. » Vous savez, quand on a un accent, ça ne trompe pas. Hein. Vous savez d'ailleurs, avec le pasteur qu'on a, que l'accent ne trompe pas. De même, Pierre ne pouvait pas se cacher avec son accent galiléen. Mais il se mit à jurer avec des imprécations. « Je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la deuxième fois, un coq chanta. Et Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite, « Avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Il sortit précipitamment, il pleurait. Les disciples qu'on retrouve après sont de nouveau des femmes. Il y avait des femmes qui regardaient à distance, et parmi elles, Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques, le petit, et de José, et Salomé, mais qui le suivaient et le servaient quand il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montées avec lui à Jérusalem. Et le soir venu, comme c'était un jour de préparation, c'est-à-dire une veille de sabbat, un membre éminent du conseil, Joseph d'Arimathée, arriva. Alors là, j'ai un membre du conseil qu'on peut peut-être classer parmi les disciples. Il attendait aussi le règne de Dieu. Il eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir le centurion en lui demandant s'il était mort depuis longtemps, et renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le cadavre. Après avoir achevé un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Il le déposa dans une tombe, creusée dans le rocher, et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala, mère de José, regardait où on l'avait déposé. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait déposé. Et le dimanche matin, c'est de nouveau des femmes. Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, trois femmes, achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil étant levé, elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre de l'entrée du tombeau ?» Et levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée. Or, elle était très grande. Entrées dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme. Vêtu d'une robe blanche, elles furent saisies de frayeur. Là, on voit que Jésus les rassure. C'est même pas dit d'ailleurs Jésus, c'est il. Hein? Mais il leur dit, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, ils vous précèdent en Galilée. » Et ça, je vais reprendre. Et les femmes sortirent et s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et bouleversées, et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Et ça, c'est cette fin un peu brutale de l'évangile de Marc dans le texte d'origine. On ne sait pas s'il y avait d'autres conclusions après, mais en tout cas, celle qu'on a dans nos Bibles est plus tard. Maintenant, Jésus. Jésus face à cette femme qui vient loindre d'huile, dit aux gens qui le critiquent, probablement des disciples, mais peut-être d'autres personnes, « Laissez-la, pourquoi la tracasser? C'est une bonne œuvre qu'elle vient d'accomplir à mon égard. Ce qu'elle pouvait faire, elle l'a fait. » D'avance, elle a parfumé mon corps pour l'ensevelissement. En vérité, je vous le déclare, partout où sera proclamé l'Évangile dans le monde entier, on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle a fait. C'est intéressant qu'à cet endroit-là, Jésus est en train déjà d'annoncer l'Évangile, de parler d'annonce de l'Évangile au monde entier, à propos de cette femme. « Ensuite, on voit que Jésus envoie ses disciples pour la préparation du repas. Puis, pendant le repas, pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur dit, « En vérité, je vous le déclare, l'un de vous va me livrer. Un qui mange avec moi. » Et pendant le repas, je ne vais pas relire les paroles, nous les relirons tout à l'heure en prenant la Sainte Cène, qui nous rappelle vraiment le cœur du sens de l'Évangile. Et ensuite, après avoir chanté les psaumes, ils sortirent pour aller au Mont des Oliviers. Et chanter les psaumes, moi, ça m'évoque aussi mon voyage en Israël, pour faire plaisir à Santoche, parce que j'ai eu l'occasion d'aller à une cérémonie de préparation juive, et c'est presque entièrement chanté, la cérémonie. Et c'est des chansons, voilà, tout le monde chante, c'est quelque part à la fois très simple et très beau. Mais tous les textes sont chantés, c'est comme ça qu'ils prient. Alors, les voilà qui chantent les psaumes, ils sortirent pour aller au Mont des Oliviers, et Jésus leur dit, « Tous, vous allez tomber, car il est écrit, et il se réfère à un texte de l'Ancien Testament. » Puis, malgré les affirmations de Pierre, Jésus lui dit, « En vérité, je te le déclare, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois fois. » Et les voilà qui arrivent à Gethsémani, dans ce jardin, les oliviers. « Restez ici pendant que je prierai. » Et Jésus commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir, demeurez ici et veillez. » Et allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, « Abba, Père, à toi tout est possible. Écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Puis il revient et remarque que ses disciples n'ont pas eu la force de veiller une heure. Veillez et priez afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. Puis après, la troisième fois, continuez à dormir et reposez-vous. C'en est fait, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Et puis voilà que Jésus se fait arrêter et il dit à ceux qui l'arrêtent, « Comme pour un hors-la-loi, vous êtes partis avec des épées et des bâtons pour vous saisir de moi. Mais chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple à enseigner. Vous ne m'avez pas arrêté. Mais c'est pour que les Écritures soient accomplies. » Et tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quelque part, Jésus se laisse complètement faire et pourtant c'est lui qui mène l'histoire qui est en train de se passer. Devant le Sanhédrin, Jésus garde le silence, ne répond rien. Puis, quand le grand prêtre lui demande « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus dit « Je le suis ». Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. Et ce « je le suis », c'est un rappel du « je suis », celui qui suit, de la révélation de Dieu à Moïse dans l'Exode. Devant Pilate, Jésus est silencieux. Devant les soldats qu'il couronne d'épines, silence aussi. Devant les gens qui l'insultent, dans la crucifixion, silence aussi. Et puis à 3 heures de l'après-midi, Jésus crie d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui signifie « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et poussant un grand cri, Jésus expire, et le voile du sanctuaire se déchire de haut en bas. Sans doute le voile qui interdisait l'accès au lieu très saint qui est désormais ouvert au monde entier. Et les dernières paroles de Jésus ressuscité, « Ne vous effrayez pas, dit-il aux femmes. » Enfin là, c'est l'ange qui dit. « Vous cherchez de Nazareth le crucifié, il est ressuscité. » Il n'est pas, c'est pas encore Jésus qui parle ici, hein, il n'y a pas encore d'apparition. « Ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth le crucifié, il est ressuscité, il n'est pas ici. » Allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. Et dans les quelques remarques que j'aimerais faire maintenant, on verra ce que ça signifie. Ça a une très grande portée, ce mot Galilée. Alors on pourrait en faire des masses, mais j'en ai trois principales de remarques. La première, c'est que ce récit de la Passion, comme on l'a déjà dit, il donne son sens à tout le récit de l'Évangile et à toute la vie de Jésus. Non seulement parce que pendant tout le récit, on sent qu'on y va, hein, il y a une espèce d'imminence. Jésus fait le trajet de la Galilée jusque vers Jérusalem et on sent qu'il y a un drame qui se prépare. Et ça a un sens non seulement comme sacrifice expiatoire, mais ça a un sens aussi parce que c'est une voie à suivre. Et ça se voit en particulier dans la confession de Pierre et ce que Jésus dit juste au milieu de l'évangile auquel on a fait allusion. Jésus explique que le disciple est appelé à prendre sa croix. Autrement dit, ce parcours de Jésus qui passe par la croix est aussi un modèle de vie. Non pas parce qu'il faudrait souffrir, hein, ou rechercher la souffrance, c'est pas ça. Mais je crois que c'est dans l'esprit de service et de don de la vie de Jésus, qui est un modèle pour nous. C'est aussi cette fidélité qui va jusqu'à passer par la persécution. Et ça, les chrétiens de cette époque le vivaient très sérieusement. Et ça n'est pas chercher la souffrance, mais c'est parfois devoir l'accepter. Et je pense que ça va encore plus loin que ça, parce que ça a une portée non seulement pour nous individuellement, mais je pense aussi pour la société humaine dans son ensemble. Dans la mesure où la violence, c'est la réponse de Dieu à la violence qui habite l'être humain. Donc c'est un modèle de renoncement à l'esprit de vengeance, de renoncement à la tentation du pouvoir, de renoncement à la tentation de porter la faute sur les autres, et en particulier dans la société, de reporter la faute sur tel ou tel groupe, ou telle victime expiatoire. Et ça serait intéressant si quelqu'un parmi les plus jeunes, ont du temps d'étudier un petit peu les thèses de René Girard à ce sujet, qui sont extrêmement intéressantes. Alors moi, je n'ai pas tout lu, j'ai lu certaines choses, mais il montre comment le sacrifice de Jésus a une valeur d'ordre très profond pour la société. Je pense aussi au témoignage, j'ai trouvé très émouvant dans le témoignage de cette famille libérée. Et le journaliste de France 2 les a interrogés très simplement sur leur foi. Et avant même de savoir leur foi, moi j'étais frappé par la sérénité avec laquelle ils parlaient. Et je trouvais que c'était aussi des gens qui ont vécu ça et qui ont cette sérénité. C'est un vrai témoignage de foi. Et c'est tout à fait dans l'esprit de l'Évangile. Deuxième remarque, Jésus a fait beaucoup de miracles, il a guéri beaucoup de malades, et au moment de son arrestation, il a cette prière que cette coupe s'éloigne de moi, cette prière qui reste inexaucée parce que Jésus accepte la croix. Et puis au moment de sa mort, cette prière quasi tragique, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je trouve que ça nous renvoie quelque part à nos prières non exaucées. Et peut-être que chacun en a quelque part au fond de lui. À nos moments de dépression, de difficulté, et penser que à la présence de Jésus, qui a vécu tout ça avec nous dans ces moments-là. Troisième remarque, tout au long de l'évangile, on a cette incompréhension totale des autorités juives, une compréhension assez partielle des disciples, et ce sont systématiquement des non-juifs qui comprennent. Jésus annonce la chute du temple auquel se raccrochaient les autorités juives. On a lu d'autres dimanches le récit des vendeurs chassés du temple, mais ils sont chassés du parvis du temple avec cette note, cette remarque de Jésus, une maison de prière pour les nations. Et ce parvis du temple, c'était le lieu où les nations pouvaient venir et qui était occupé par des vendeurs qui profitaient des pauvres pour leur vendre des petits pigeons. Et au moment suprême de la croix, qui est-ce qui confesse Jésus, fils de Dieu ? C'est le centurion, un centurion romain. Voyant Jésus mourir, cet homme était le Fils de Dieu. C'est extrêmement fort, ça. Marc dit avec une très grande force l'ouverture du salut de Dieu à l'humanité entière, à toutes les nations, à tous les hommes sans discrimination. Et à la résurrection, quand on donne rendez-vous aux disciples en Galilée. La Galilée, c'est encore le symbole des nations, de l'évangile qui va vers les nations. Alors je crois que c'est quand même une des forces de ce message de Marc. Ça, c'est une chose que j'ai trouvée dans un livre qui s'appelle Mark, The Way for Nations, for All Nations. Mais le message de Marc et le message de l'Évangile, c'est cette bonne nouvelle du salut de Dieu pour tous, sans discrimination. Et on le redira encore à la Sainte Cène, mais j'aimerais simplement lire pour conclure un texte d'Ésaïe qui nous montre ça. Donc c'est quelque chose qui est bien ancré dans l'Ancien Testament. Un de ces chants du serviteur, il m'a dit, c'est trop peu que tu sois pour moi un serviteur en relevant les tribus de Jacob et en ramenant les préservés d'Israël. Je t'ai destiné à être la lumière des nations afin que mon salut soit présent jusqu'à l'extrémité de la terre.